quand je rentre sur le cours, je suis frais comme un lardon, comme dirait mon pote Mika. Et il fait beau, je suis à Roland, et là, je sais que tous les as sont alignés, quoi. Je sens vraiment un truc. Tout d'un coup, mon public, le public, la France, et même au-delà des gens qui aiment le tennis, se disent, il peut gagner. Mais ce qui me plaît vraiment, c'est que là, j'ai le sentiment que tous les gens vont regarder le match, toute la France va regarder le match, mais c'est surtout, ils vont tous regarder parce qu'ils pensent enfin que je peux gagner, mais qu'on peut gagner. C'est la première fois, on peut gagner.
Ce dimanche, 5 juin 83, l'important pour Yannick Noah, ce n'est pas de participer, mais bien de gagner. Et toute la France est derrière lui. 50 millions de Noah, écrit le journal L'Équipe. Bienvenue dans Yannick Noah, entre vous et moi.
Entre vous et moi.
Un podcast Europe 1, une saga exceptionnelle en 10 épisodes.
Salut à tous, nous sommes à Étoudy, dans le lieu dit Village Noah.
Épisode 7, Roland Garros, la consécration et la chute.
Quand je rentre sur le terrain, Bébel, il me fait « Tu vas le faire, petit !» Parce qu'on y croit, tout le monde y croit vraiment. C'est pas « Oh là là, il y est, c'est bien !» Coubertin, il n'existe pas dans la photo. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant.
Un peu de silence, je vous prie.
J'ai rêvé que j'avais perdu le match. J'ai perdu le match, mais j'ai tout, hein. Il y a des moments où je suis monté à mauvais escient. Il y a des moments où j'aurais dû attaquer. Il y a des moments où j'aurais dû prendre un match. Et je perds. Quand tu perds à ce niveau-là, alors il y a des gens qui rentrent chez eux. Oh, il a perdu. Oh mince, j'étais pour lui. Oh merde, oh là là, il a perdu. Mais quand tu perds, t'es pas loin de te dire je pourrais crever, quoi. Tellement ça fait mal. Tellement ça fait mal. Il y a des matchs que tu perds. Tu mets des semaines à dormir, tu mets des semaines à bouffer, tu ne peux plus même penser à aller à l'entraînement. Mais j'ai joué qu'une finale dans ma vie. Et le samedi soir, je la perds dans mon rêve. Et je peux te dire, quand je me suis réveillé, mon esprit, parce que c'est le corps, c'est l'esprit qui gère tout le reste, mon esprit, il était dans la tombe. Et là, j'entends toc, 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 c'est papa qui frappe à la porte. Yann, tu es prêt? Tu as bien dormi? Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que pour moi, je suis le lundi. J'ai paumé. Je connais le feeling quand tu as paumé. Et là, je m'aperçois que putain, j'ai rêvé. Alors, il y a aussi un autre sentiment. Quand tu as vu la mort de près, je peux dire la vie, tu la vois différemment. C'est un truc de fou. La force que tu as quand tu as failli crever, c'est pas la même chose. Et là, j'avais cette... Quand je me suis levé de mon lit, là, je peux dire un truc, c'était comme si 10 minutes plus tard, j'avais une deuxième chance d'aller rejouer le match. Comment je me suis levé, comment je suis allé m'entraîner, comment j'ai pris ma bagnole, comment je me suis arrêté à Auvernaud, m'arrêter au tabac pour me prendre une clope, comment je suis allé à la Croix-Catelan faire mon échauffement, comment je suis allé prendre mon plateau repas au Racing avec mes potes, parce que j'ai bouffé avec mes potes avant la finale. Je jouais 3-4 heures après, j'ai bouffé un plateau repas au milieu des gens qui allaient tous à Roland. J'étais serein, j'étais bien. Mais ce qui m'hallucine, c'est putain, le môme de 23 ans, la tronche que j'avais, quoi. J'étais en mission. Ça, je trouve ça extra. Ce qui m'interpelle, c'est que c'est la même façon de marcher, le même regard, le même truc que Joachim a quand il joue au basket. C'est ouf, ce truc de « je vais chercher, j'y vais, mais rien va m'arrêter, quoi ». Et le match se joue, hein, je regarde les points, tout ça, mais moi, ce qui m'hallucine, j'ai dit « j'étais dedans, rien à ce moment-là, pendant ce match, pouvait me toucher. C'est un espèce d'état de grâce, on va dire, mais un état de grâce qui a été travaillé. C'est pas un coup de chance, d'un coup j'étais bien. Comme c'est des fois, on dit ah ben tiens, j'ai un jour sans. Ben oui, mais il y a des raisons. Il y a des raisons. Le jour où tu dis, ah ben tiens, ben, j'ai eu un jour sans, ben, on passe à autre chose, ben, tu ne travailles pas, tu n'avances pas, tu ne progresses pas. C'est important de paumer. Mais des fois, gagner, savoir aussi pourquoi, c'est important. Et là, ça a été un moment où tout était en place. Tous mes potes étaient là, toute ma famille était là. J'étais à Roland, j'ai grandi. Il faisait beau. C'était important qu'il fasse beau. Pourquoi ? Parce que le cours est un peu plus rapide, la terre battue plus rapide. Matt, c'est un défenseur, je suis un attaquant. Le cours rapide, ben, c'est mieux pour l'attaquant. Donc, il y avait tout en place.
Nous sommes dans le tie-break. Yannick Noah mène 2-7-0, 6-3 dans le tie-break de la troisième manche. Ouais. Noah au service.
Matt, il cherchait l'ace. Oui, il sert au centre. Il monte au filet.
Il a gagné ! Il a gagné ! Oh, quel moment ! Yannick qui est à genoux au centre du cours.
Il a 23 ans, Yannick Noah. Il a eu 23 ans, Yannick Noah. Il embrasse son père Zachary.
Bien sûr que je suis surpris quand papa saute sur le cours. Moi, mes parents, personne les connaissait. Hein. Mes parents étaient complètement discrets, moi, dans mon aventure. Mes parents étaient m'encourager à la maison, m'encourager, comme on encourage la famille. Mais mes parents n'étaient pas présents. Mes parents n'intervenaient jamais auprès de mes entraîneurs, jamais. Mes parents étaient là. Quand il y avait des tournois à Roland, ils sont une fois, je crois, à l'US Open, ils venaient nulle part. Enfin, mes parents n'étaient pas présents. Il y avait cette discrétion d'humilité, hein, mais voilà, il faut le dire. Et oui, quand papa elle a sauté sur le cours, il est arrivé, il m'a sauté dessus et je me suis retrouvé avec papa dans mes bras, quoi.
Je suis heureux pour ce qui est arrivé à Yannick, qui a consenti des sacrifices depuis un bon bout de temps. Ça fait un an qu'il s'est mis dans la tête qu'il fallait absolument qu'il progresse pour arriver à ce niveau-là. Il a répondu à des gens qui croyaient le connaître et qui disaient qu'il n'était pas ambitieux.
Tu ne sais pas sur le moment, tu le partages ce moment, mais ce moment, il appartient à tous les pères de famille qui ont regardé le match à ce moment-là, à toutes ces familles qui ont regardé, parce que les gens chialaient, pas parce que j'ai gagné. Bien sûr, ils étaient contents, mais tout le monde était pour moi. Donc, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. C'est incroyable de toucher ça une fois dans ta vie. Mais ce moment a mis autre chose. C'est-à-dire que les gens de ma génération, de d'autres, ont pleuré devant leur télé. Parce que les pères ont pleuré, les mères ont pleuré, les gamins ont pleuré. Ça a été une émotion qui était bien plus forte que gagner. Je me mets par terre, je prends la coupe, je remercie les sponsors. Non, rien de ça. C'était juste un truc d'émotion pure. Et cette victoire, je suis central, mais elle appartient à tout le monde. Tous les gens ont vécu une émotion à ce moment-là. Et des années après, des décennies après, j'en compte des gens qui me disent, dans la rue, inconnus, qui me parlent de ce moment avec une véritable émotion. C'est merveilleux.
C'est la première fois, bien évidemment, que Yannick s'impose dans un tournoi de cette dimension. Il a remporté aujourd'hui à Paris le premier tournoi du Grand Chelem de l'année 1983. Coup de chapeau.
Quand j'ai gagné, après, c'était compliqué parce que j'avais plus de rêve. Je continuais à jouer, j'étais un très bon joueur, j'étais le meilleur du monde, mais j'avais plus de rêve. J'avais plus le petit truc en plus de, voilà. Il aurait pu manquer quelque chose en 83. Il aurait pu manquer quelque chose. Mais il a rien manqué, il y avait tout. Je suis à la maison. Il y a l'émotion, 50 millions heureux, chez moi, il y avait tout. Je vais rêver de quoi, un deuxième ? Rêver, gagner ailleurs ? J'en ai pas rêvé. Quand je gagne Roland, moi, dans mon univers, c'est une première pour tout le monde. Je vois des journalistes qui disent, oui, maintenant il faut confirmer. De d'où tu sors ce mot abruti ? Confirmer quoi ? Tu veux que je te donne le film ? Je l'ai gagné, mec. Mais les mois qui viennent, oui, mais il a fait que quart de finale, et machin. Le problème, c'est que quand ce qui m'est arrivé, c'est que moi, j'ai pas fondamentalement changé, mais c'est que tout le monde autour de moi a changé. Ma boulangère, le chauffeur de taxi, tout le monde a changé. Et je devais gérer quelque chose. Moi, ce que je voulais, c'est gagner, montrer qu'on pouvait gagner, qu'un Français, un Franco-Camerounais pouvait gagner. C'était ça dont je rêvais. Mais le lendemain, je vais où maintenant ? C'est pas... Aller t'entraîner pendant des mois avec des gens qui te félicitent, c'est pas facile. Il faut être accompagné par quelqu'un qui te donne les codes. On n'avait pas les codes. On découvrait tout ça. À la Fédé, tout le monde, on découvrait ça. Oui, allez, on va bien jouer à l'US Open. Oui, mais le truc, en plus, je ne l'ai jamais retrouvé. Je n'ai jamais retrouvé ça. J'ai essayé de trouver un sens à tout ça parce qu'à un moment, une fois que j'avais à peu près tout, mais voire plus que je rêvais, enfin, j'ai jamais rêvé d'un... Voilà, j'en ai rêvé, j'ai réussi à gagner, à avoir la vie dont j'ai... Enfin, je pouvais même pas rêver de plus. Enfin, moi, je viens d'un petit village du Cameroun, quoi. Où on n'avait pas de quoi me payer ma première raquette. Voilà, on dit toujours, n'oublie pas d'où tu viens. Ben, moi, j'arrive pas à oublier ça. Donc, moi, j'ai toujours pris tout ça comme un cadeau. Mais à un moment, cette notoriété, pour moi, c'était un truc complètement abstrait, complètement superficiel et qui me gênait. Parce que j'aimais pas du tout cette vie. Ça n'avait pas de sens.
Quand, hier soir, tu vois, à 5h du mat, parce que je marche toute la nuit, je dors pas. Je me retrouve sur un pont de l'Alma, tu vois, regarder l'eau, je me dis je plonge pas, je me dis il y a un problème, tu vois. Je me dis il y a un problème quelque part. Et qu'on me parle surtout pas de fric, qu'on me parle pas d'impôts, qu'on me parle pas de conneries, surtout pas, parce que ça me tue, ça. Ça me tue vraiment. Dans ces trucs-là, je suis seul, tu vois, je suis tout seul.
Et le gamin de 23 ans, il s'est dit, en fait, le vrai truc que je veux maintenant, c'est une famille. Je veux des gosses. Le tennis, ben oui, mais c'est secondaire. Et le tennis est devenu secondaire dans ma vie. J'ai rencontré Cécilia, on est tombés amoureux, on s'est mariés ici 6 mois après. Joachim est né 6 mois après. Yelena est venue après. Et là, j'avais tout ce qu'il fallait. J'étais heureux. Mais forcément, le guerrier intérieur sur le court, il était un peu plus soft, il était plus sensible, il était moins... Je travaillais plus dans l'urgence, j'étais plus du tout dans la survie.
Vous venez d'écouter Yannick Noah, entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant...
J'ai fait des tournées dans les MJC. C'est pas venu tout de suite. Parce qu'après Saga Africa, j'ai fait des trucs assez médiocres. Hein. Mais on s'éclatait. Tourner dans le bus avec les potes. Aller de ville en ville. Chanter dans des salles où il y avait 10 personnes, dont un mec avec son chien qui aboyait pendant des chansons où je parlais de la vie et de la mort. Des trucs extraordinaires, mais tout ça dans... Et là, ça me plaisait.
Yannick Noah, entre vous et moi. Production Europe 1 Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée.